Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Plein soleil, la presse et protégez-vous. Au programme, la rémission du diabète de type 2, révolution tranquille et pourquoi votre enfant devrait apprendre à nager. Bonne écoute.
Source, plein soleil, été 2023. Auteur, Célia Scaramuzzino. La rémission du diabète de type 2. En novembre 2022, Diabète Canada publiait dans ses lignes directrices un nouveau chapitre sur la rémission du diabète de type 2. Ce sujet a fait réagir. Nous jugeons donc important que vous soyez bien informés. En voici les grandes lignes. Qu'est-ce que la rémission du diabète? Un diagnostic de diabète est établi lorsque l'hémoglobine glyquée, un indicateur du taux de sucre dans le sang, est de 6,5% et plus. La rémission du diabète de type 2, elle, se définit comme un retour de l'hémoglobine glyquée dans les valeurs normales, soit au-dessous de 6%, sans usage de médicaments pour le diabète, et ce, pendant au moins 3 mois. Rémission ne veut pas dire guérison. Le terme rémission implique la possibilité de rechute, c'est-à-dire de retour du diabète de type 2 après plusieurs mois ou années de rémission. La rechute se définit par une remontée de l'hémoglobine glyquée à 6,5% et plus, ou par une réintroduction de la médication pour la gestion du diabète ou de ses complications. Dans la majorité des cas, la rémission est temporaire. La rémission, c'est pour qui? Le protocole pour tenter une rémission du diabète demande un engagement important et prolongé. Il peut également entraîner des répercussions négatives sur l'estime de soi si la rémission n'est pas atteinte ou en cas de rechute. Ainsi, la décision de tenter une rémission doit être discutée avec l'équipe de soins et elle doit être prise en toute connaissance de cause par la personne qui vit avec le diabète de type 2. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération, comme la présence d'autres problèmes de santé, les aspects culturels et financiers ou les attentes. La rémission n'est pas pour tout le monde. Les personnes qui ont le plus de chances d'atteindre une rémission du diabète de type 2 sont celles qui ont un diagnostic récent, soit moins de 6 ans, présentent un surpoids ou une obésité et qui ont un potentiel de perte de poids, n'utilisent pas d'insuline. À ce jour, il n'existe cependant pas de prédicteur de succès. Par ailleurs, la rémission ne doit pas être tentée chez les personnes qui présentent des complications du diabète. Quant aux personnes vivant avec un trouble des conduites alimentaires ou de santé mentale, elles doivent faire l'objet d'une évaluation minutieuse. Comment obtenir une rémission du diabète de type 2? Les épisodes de rémission du diabète de type 2 ont été observés principalement dans un contexte de perte de poids importante, soit plus de 15 kilos ou 33 livres. Actuellement, 3 approches sont étudiées et reconnues dans la littérature scientifique. La chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique est l'approche la plus connue, puisqu'elle est étudiée depuis plusieurs décennies. Elle semble aussi avoir des résultats légèrement plus favorables que ceux observés dans les autres méthodes. Toutefois, c'est une approche qui implique une intervention chirurgicale irréversible et qui présente des risques de complications plus élevés. Elle s'adresse aux personnes ayant un IMC au-dessus de 35. Différents types de chirurgie bariatrique peuvent être effectués. Avec cette approche, de 30 à 60 des personnes étaient en rémission après 5 ans. Ce chiffre descendait à moins de 50 après 8 ans. 2. La diète très faible en calories via la prise de substituts de repas liquides. Cette approche est basée sur une alimentation restrictive et très faible en calories constituée de substituts de repas liquides. Elle se déroule en trois phases. La première peut durer jusqu'à 5 mois et consiste à consommer 3 à 4 repas à base de bouillon et de substituts de repas liquides uniquement, par exemple, Glucerna, Boost, OptiFast. Il s'ensuit une phase de réintroduction progressive des aliments pendant 1 à 2 mois. La dernière phase est une phase de maintien du poids qui associe une alimentation contrôlée en calories et de l'activité physique. En cas de regain de poids, pendant la phase de maintien, des substituts de repas liquides sont réintroduits. Avec cette approche, 50 % des personnes étaient en rémission après 1 an. Après 2 ans, il ne restait qu'une personne sur 3 encore en rémission. Le programme d'exercice physique combiné avec une alimentation faible en calories. Cette approche comprend la pratique d'une activité physique structurée pendant 30 à 60 minutes, de 5 à 6 jours par semaine, combinée avec une alimentation faible en calories. Elle peut durer de 4 à 12 mois. Avec cette approche, une personne sur 4 était en rémission après 2 ans. Mise en garde. Il est primordial que la personne vivant avec le diabète de type 2, qui veut tenter une rémission, soit encadrée par une équipe de professionnels de la santé spécialisés en rémission du diabète. Des suivis et des ajustements doivent être faits tout au long du processus pour assurer un déroulement sécuritaire. Par exemple, la médication pourrait être ajustée. La tension artérielle et l'état d'hydratation seront surveillés et des laxatifs ou des suppléments de vitamines et minéraux pourraient être prescrits. La tentative de rémission du diabète de type 2 et son maintien doivent être encadrés par une équipe de professionnels de la santé. À l'heure actuelle, il n'y a pas de preuves qui démontrent que la rémission du diabète en elle-même entraîne une amélioration des conditions de santé et de la personne. Les bénéfices estimés sont en lien avec l'amélioration de l'hémoglobine glycée et la perte de poids qui, elles, sont reconnues pour diminuer les risques de complications du diabète et la résistance à l'insuline. Et si la rémission est atteinte? Si la rémission du diabète est atteinte, des prises de sang devront être faites tous les 6 mois pour assurer l'absence de récidive du diabète. Comme dans la gestion du diabète, les saines habitudes de vie et la surveillance de la tension artérielle et du cholestérol devront également être maintenues pendant toute la période de rémission. Bien qu'il fasse beaucoup parler de lui, le sujet de la rémission du diabète de type 2 n'en est qu'à ses débuts. Rappelons que, dans la majorité des cas, la rémission du diabète est temporaire, qu'elle nécessite un engagement personnel important et qu'elle peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale. De plus, le nombre de personnes qui atteignent la rémission et qui la maintiennent est modéré. De ce fait, toute décision en lien avec la rémission du diabète doit être bien réfléchie et prise en connaissance de cause. Elle doit également être encadrée par une équipe de professionnels de la santé expérimentés. À l'heure actuelle, la rémission du diabète peut être considérée chez certaines personnes comme une option thérapeutique supplémentaire pour la gestion du diabète et de ses complications. Elle n'est cependant pas une solution au diabète. Quand vous aurez fini de lire ce magazine, une personne de plus au Québec apprendra qu'elle a le diabète. Au Québec, 1 200 000 personnes sont touchées par le diabète. En faisant un legs testamentaire à Diabète Québec, vous contribuez à soutenir la recherche ainsi que les personnes qui vivent avec le diabète pour l'amélioration de leur bien-être. C'est un geste d'une très grande portée.
Révolution tranquille. un texte de Kim Thuy, paru le 18 juin 2023 dans La Presse. Le Québec est partout. Ou plutôt, partout où je vais, la culture québécoise est omniprésente. Comme des millions de touristes, j'adore visiter le Japon. C'est pourquoi je me suis embarquée un jour dans l'avion, sans me préparer, pour une invitation à Tokyo par l'Association japonaise des études québécoises. Je me suis retrouvée dans une salle de classe universitaire en plein cœur de cette fascinante mégalopole. À ma grande surprise, devant de nombreuses rangées étroites, de longues tables, le premier professeur japonais a présenté pendant une heure, dans un français impeccable, son travail sur la nordicité de la langue de Gaston Miron. La deuxième, tout aussi rigoureuse, a analysé la ponctuation phraséale d'Anne Hébert. La troisième a enchaîné avec la féminisation des titres. L'après-midi a continué au même rythme, avec la même curiosité pour la littérature québécoise. Le lendemain, j'étais invitée devant une classe de plus de 100 étudiants inscrits à un cours consacré uniquement au Québec. Ensuite, à Kanda, une ville située à environ une heure de train de Tokyo, quelques étudiantes d'un autre cours sur la culture canadienne, anglophone et québécoise sont venues me saluer en me montrant fièrement leur T-shirt du restaurant La Banquise où elles avaient mangé des poutines à 3 heures du matin. À New Delhi, le professeur Alex Noël m'a reçu dans sa classe de littérature québécoise alors qu'à Bombay, Mumbai, la professeure, Dr. Vidya Venkatesan, a prolongé notre rencontre dans ma chambre d'hôtel accompagnée de quelques-unes de ses étudiantes. Une autre professeure à Jaipur revient régulièrement au Québec avec son mari et son fils pour se replonger dans une culture qu'elle enseigne avec affection et attachement depuis une dizaine d'années. En Roumanie, à Lace, une ville près de la frontière avec la Moldavie, une longue conversation suivie d'un long repas où plusieurs ont partagé leurs livres québécois préférés, enrichis souvent de citations et d'anecdotes, qui venaient renforcer leur lien et amour inconditionnel pour ce lieu où vivaient une cousine, un frère, une tante. Au Salon du livre à Kyiv, avant la guerre, les livres qui se vendaient le mieux à ce moment portaient des noms québécois. « Le poids de la neige » de Christian Gay-Poliquin et plus d'un livre de Larry Tremblay. En Allemagne, India Desjardins accompagne les jeunes alors que Michel Jean rejoint la gauche et la droite en passant par le centre. De plus de 60 000 nouveaux titres sortis en France chaque année, Antoine Desjardins s'est taillé une place de choix dès son premier livre, tout comme Kevin Lambert, pour n'en nommer que deux. Le Musée de la poésie à Édimbourg a une section de recueil de poèmes de nos poètes et poétesses québécois les plus illustres, alors qu'une salle en plein cœur de l'Université de Pékin, Beijing, était réservé aux livres québécois uniquement. En 2023, le prix Dublin Literary Award, qui ne considère que les livres proposés par des bibliothécaires de 80 pays, a retenu 70 livres. Dans cette liste prestigieuse, trois écrivaines québécoises se retrouvent. J'ai été témoin de tant de discussions animées et intéressées, en privé ou devant public, à propos de notre façon de faire et de réfléchir, à Varsovie, à Suzhou, à Bruxelles, à Bangkok, à Brême, à Taipei, au Wisconsin, à Bogota, à Reims, à Mantova, à Mexico, dans le Périgord, à Princeton, à Angoulême, à Madison, à Genève. J'ai arrêté de compter le nombre d'étudiantes et d'étudiants en maîtrise et au doctorat qui mentionnent dans leurs thèses et mémoires Marie-Claire Blais, Michel Tremblay, Louis Aymon, Dany Laferrière, Naomi Fontaine, Hubert Aquin, Michel-Marc Bouchard, Joséphine Bacon. Pourquoi la voix du Québec est-elle si convoitée, si écoutée, si répandue? Ma réponse s'est révélée peut-être autour d'un café à Vernon où les gens venant des 5 continents ont avancé l'idée que la liberté est aux États-Unis ce que l'égalité est à la France. Dans cet élan, ils m'ont demandé quelle serait l'enseigne au Québec. Comme il fallait réduire à un mot, j'ai choisi l'humilité. L'humilité de ne pas penser que le modèle québécois de liberté et d'égalité est unique ou que nous ayons toutes les réponses. Bien au contraire. Nous avons la soif d'apprendre. Nous traversons les frontières physiques et culturelles avec l'ouverture des aventuriers et la politesse des pèlerins. Nous forgeons notre identité collective en accueillant les réflexions des uns, en écoutant les coutumes des autres, en embrassant d'aplomb l'inusité et l'innovation. Nous nous permettons la liberté des intuitions et l'audace des envies. Nous avançons avec la ferveur des curieux et la débrouillardise des patenteux, tout en gardant le calme et le respect des bienveillants. Peut-être que mes collègues m'ont trouvé quelque peu chauvine, mais ils ont tous acquiescé avec enthousiasme, exprimant même le souhait que l'humilité à la québécoise devienne contagieuse. À vrai dire, je me donne le droit d'être tranquillement fier. Nous sommes 8 787 554 personnes à marcher bras dessus avec une force tranquille et résiliente. Nous sommes 8 787 554 à recevoir le monde entier dans nos bras avec une assurance tranquille et profonde. Nous sommes 8 787 554 à semer à tout vent notre identité québécoise avec une humilité tranquille et ancrée, grandiose. C'était « Révolution tranquille », un texte de Kim Thuy, paru le 18 juin 2023 dans La Presse.
Pourquoi votre enfant devrait apprendre à nager? Par Justine Momigny, le 20 avril 2023, tiré de la revue Protégez-vous. La capacité des enfants du primaire à se débrouiller seuls en eau profonde a fortement chuté depuis la pandémie. Les cours de natation ont repris l'automne dernier. Il manque de place, mais cela vaut la peine d'inscrire votre enfant sur une liste d'attente et d'inciter vos ados à devenir moniteurs de natation ou sauveteurs. Piscine fermée, manque d'animateurs, liste d'attente interminable, les parents le savent. Inscrire ses enfants à des cours de natation depuis le début de la pandémie n'est pas de tout repos. Cependant, La situation revient progressivement à la normale, selon Éric Hervieux, président de l'Association des responsables aquatiques du Québec, ARAQ. Y a-t-il assez de cours? Les piscines ont fermé en mars 2020 et ce n'est que l'automne dernier que les cours de natation ont repris de façon régulière. L'an dernier, l'offre de cours avait baissé de près de 40 % par rapport à l'avant-pandémie. Aujourd'hui, il manque encore de 10 à 15 % pour revenir à la normale, dit Éric Hervieux. Selon lui, la situation sera rétablie d'ici fin 2023. À titre d'exemple, Québec Natation, la plus grande école de natation à Québec, aurait pu donner des cours de natation à 4 500 élèves pour la session de ce printemps, mais elle n'a pu offrir que 2 800 places par manque de personnel, rapporte Richard Bernier, propriétaire de l'entreprise. Une des raisons du manque de cours vient des parents eux-mêmes. Plusieurs inscrivent leurs enfants dans différentes écoles de natation pour être sûrs de trouver une place. En agissant ainsi, ils bloquent les places pour d'autres enfants, avertit Richard Bernier. Avertir l'école que l'enfant ne viendra pas, car il a un cours ailleurs, permettrait d'offrir la place à une autre personne. Québec Natation a actuellement 6 000 jeunes inscrits sur sa liste d'attente, faute de places disponibles. Moniteurs et sauveteurs, formation gratuite et job d'été. La principale raison du ralentissement des cours demeure toutefois le manque de personnel. En effet, la pandémie a freiné la formation de sauveteurs et de moniteurs. La plupart d'entre eux commencent à travailler vers l'âge de 16 ans, mais ils changent souvent d'emploi vers 19 ou 20 ans, au moment d'entrer à l'université. Avec la pandémie, nous avons perdu les deux tiers de nos employés sans pouvoir renouveler le bassin de travailleurs, mentionne Éric Hervieux. Pour pallier cette pénurie, le gouvernement du Québec a octroyé l'été dernier un financement de 21,5 millions de dollars pour rendre gratuite la formation de sauveteurs et de moniteurs et encourager de jeunes nageurs à se former dans les centres aquatiques agréés. La situation est donc en train de s'améliorer. Avant la pandémie, selon ce qu'indique la Société de sauvetage du Québec, plus de 5 000 jeunes suivaient la formation de sauveteurs chaque année. En 2020, ce nombre avait dégringolé à 2 500. Et en 2021, 4 500 personnes ont repris la formation. Devenir moniteur ou sauveteur pourrait d'ailleurs intéresser des adolescents à la recherche d'un emploi. Les centres aquatiques sont toujours à la recherche d'employés. Un jeune qui entame sa formation est sûr d'avoir du travail, affirme Éric Hervieux. Où inscrire son enfant pour un cours de natation? Depuis janvier 2023, ce n'est plus la Croix-Rouge qui s'occupe des programmes de cours de natation des enfants, mais la Société de sauvetage du Québec. Avant, celle-ci s'occupait uniquement des cours destinés aux sauveteurs et moniteurs de la province. La Société de sauvetage du Québec propose le programme « Nager pour la vie », offert partout au Québec dans près de 200 centres aquatiques différents. À noter, le nom des cours a changé. Il est conseillé de consulter le document d'équivalence des différents niveaux disponible sur la page Internet de la Société de sauvetage. Reynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec, suggère d'inscrire son enfant le plus tôt possible. La plupart des installations favorisent actuellement les réinscriptions, déclare-t-il, et priorisent les personnes qui étaient inscrites à la session précédente. Éric Hervieux incite aussi les parents à procéder à l'inscription malgré les listes d'attente. Certains gestionnaires de centres aquatiques peuvent ouvrir davantage de cours s'il y a beaucoup de demandes, précise le président de l'ARAQ. Richard Bernier de Québec Natation ajoute que les sessions d'été sont habituellement plus tranquilles dans les centres aquatiques. Davantage de places seront disponibles dans quelques mois. Il est également possible de regarder du côté de l'Association des camps du Québec, ACQ, qui offre parfois des camps aquatiques. Si un cours n'est pas disponible pour la session souhaitée, Reynald Hawkins suggère aux parents d'inscrire leur enfant à d'autres sports aquatiques, comme le plongeon, la nage synchronisée ou le water-polo, pour qu'il soit davantage à l'aise dans l'eau. Dans tous les cas, le directeur général de la Société de sauvetage du Québec appelle à la prudence. Lorsqu'un enfant commence à marcher, les parents lui apprennent à tenir systématiquement la main d'un adulte pour traverser la rue, dit-il. On doit faire la même chose avec l'eau. Il ne faut pas laisser un enfant se baigner sans surveillance. Dans un cas de noyade sur deux, la personne était seule au moment de l'accident. Des chiffres alarmants. Reynald Hawkins craint l'impact de l'absence, même temporaire, des cours de natation sur la capacité des jeunes à nager. Il en prend pour preuve les derniers résultats du programme Nager pour survivre. Mis sur pied en 2016, ce programme permet d'évaluer l'habileté d'élèves du primaire de 8 ans et plus à survivre à une chute inattendue en eau profonde grâce à de bons réflexes. Ce programme se donne actuellement de façon volontaire sous forme de sortie scolaire pour les écoles primaires qui choisissent d'y participer. Or, selon des données publiées par le réseau aquatique Drummondville, RAD, le taux de réussite du programme est passé de 58 % en 2019 à 34 % en 2022. Il y a une différence entre se baigner et savoir nager, explique Reynald Hawkins. Ma plus grande peur est de voir augmenter le nombre de noyades dans les années à venir. Éric Hervieux, de son côté, remarque également que les jeunes sont moins à l'aise dans l'eau. Lorsqu'on a repris les cours, beaucoup d'enfants ont dû recommencer deux fois le même niveau, dit-il. Il y a un rattrapage à faire, une mise à niveau, mais c'est assez normal.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin et Claire Dorion à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.